des départs de son empire. Et aujourd'hui, évidemment, on n'en est qu'au début. Xavier Niel vient de prendre le contrôle du monde, c'est il y a 2 ans. Qu'est-ce que sera le monde dans 10 ans quand Xavier Niel aura besoin, d'une certaine manière, de producteurs de contenu pour alimenter son activité Internet et mobile maintenant?
Xavier Niel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Orange Le Figaro. Vous êtes le fondateur de Free, le copropriétaire du Monde, bientôt actionnaire de beaucoup de sociétés, à la fois start-up, dans la presse. Et là, on vous retrouve avec quelques grands patrons, donc Mathieu Pigas de la Banque Lazare, François-Henri Pinault de PPR et Pascal Ouzelot sur un projet de chaîne de la TNT. Vous l'avez déposé au CSA, le dossier sera examiné. C'est une chaîne qui s'appelle T'es-vous. Vous avez quelle espérance dans cette chaîne?
Mon sujet personnel, c'est toujours la même chose, c'est d'aider des médias indépendants à exister afin de voir des problèmes que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on a besoin d'une presse indépendante dans ce pays.
C'est pour ça que vous investissez dans plusieurs petits sites.
Voilà, toujours sans en avoir le contrôle, toujours en étant minoritaire et toujours en essayant de ne pas s'occuper d'autre chose que d'apporter de l'argent et d'essayer d'avoir une gestion à peu près convenable.
Alors un investissement qui n'est pas passé inaperçu parce qu'il était majeur et structurant, c'est celui que vous avez fait dans Le Monde aux côtés de Pierre Berger et toujours de Mathieu Pigas. Donc vous venez d'expliquer que vous aimez investir dans les médias pour qu'ils restent indépendants. Il y a quand même une notion de pouvoir, non? Vous aimeriez avoir un peu de pouvoir.
Alors écoutez, au Monde, je pense que si vous souhaitez avoir du pouvoir, le seul journal où il faut déconseiller à des gens d'investir, c'est Le Monde, puisque vous avez des journalistes qui ont une indépendance la plus totale et qui, je pense, par essence même, par fonctionnement même, n'aiment pas spécialement leur actionnaire qui risquerait ou pourrait leur imposer quelque chose. Donc on a cette énorme chance en face, c'est que les journalistes du Monde font très attention à ça et qu'à ce jour, il n'y a pas eu de problème entre l'actionnariat et l'éditorial. Je vous rappelle qu'il y a un pacte qui existe et ce pacte laisse la plus entière liberté.
Mais je ne pensais pas une seconde sur le fait que vous puissiez appuyer sur l'indexion, avoir un quelconque pouvoir sur l'indexion, mais vis-à-vis du reste du monde des affaires, ça fait un peu chic d'être actionnaire du Monde.
Je pense que c'est une pseudo-puissance perçue et en rien une réalité. Vous êtes actionnaire, vous couvrez les pertes, le monde est revenu très légèrement à l'équilibre, c'est bien, donc c'est plutôt ça notre vrai sujet. Le reste derrière, c'est un pouvoir supposé, mais on n'a strictement aucun pouvoir.
La question qu'on se pose, c'est pourquoi tous ces gens s'emmerdent-ils à acheter des journaux dont certains sont déficitaires? En quoi est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans?
Il y a 2 choses. Je me suis vraiment, très honnêtement, posé longtemps la question. Je me dis, mais à quoi ça leur apporte? Et puis, il se trouve que j'ai travaillé après Libération à La Tribune, et je suis arrivé à La Tribune quelques mois après la prise de contrôle de La Tribune par Bernard Arnault et LVMH. Et un an ou deux après, il y a eu la bataille boursière, qui a duré plusieurs années, entre Bernard Arnault et François Pinault, et pour le contrôle de Gucci et de Saint-Laurent. Et j'ai vu que les hommes d'Arnault, par Arnault lui-même, il est d'ailleurs jamais venu à la rédaction, il est jamais venu aux Échos, il est jamais venu à La Tribune, on le connaît pas, on l'a jamais vu, mais ces hommes, ces agents d'influence, ces conseillers en communication, c'est tout ce système dans lequel vivent ces grands patrons aujourd'hui, et ben ces hommes-là faisaient passer des messages insidieux à la rédaction, tentaient d'influencer évidemment les directeurs de la rédaction, se faisaient parfois relire certains papiers avant publication, relire et donc censurer, auto-censurer, on n'en sait rien, mais c'était tout un petit système comme ça. Donc c'est de l'influence. C'est de l'influence moins directe, au fond. Bernard Arnault ne va pas convertir tous les Français au charme de l'entreprise privée. Il s'y essaye, il s'y active, mais il n'y arrivera pas. C'est de l'influence en termes de neutralisation. Pour Bernard Arnault, posséder aujourd'hui Les Échos est une arme très importante contre ces rivaux en affaires, qui sont évidemment principalement François Pinault.
Et personne aux Échos va oser écrire un papier contre,
Regardez
un exemple très récent. Vous ne mangez pas la main qui vous nourrit.
Daniel, regardez un exemple très récent et d'une certaine manière très amusant du point de vue du journalisme. Libération fait sa une il y a quelques semaines sur Bernard Arnault et titre « Cache-toi, riche con ». Bon. Très bien, ça fait du buzz, tout le monde en parle, c'est bien, c'est pas bien, on a tort, on a raison, etc. etc. C'est pas le débat. Le débat, il est de 2 ordres. Quelle est la réalité de la situation fiscale de Bernard Arnault en Belgique? Il faut lire un journal belge qui s'appelle L'Écho, c'est une coïncidence, et qui révèle que Bernard Arnault vers une fondation de droit privé en Belgique, qu'il a déjà 12 holdings, pas une, pas deux, 12 holdings en Belgique. Pourquoi faire? évidemment, pour faire glisser son patrimoine de la France à la Belgique. Et les Échos, qui est le journal économique qui devrait normalement enquêter là-dessus, eh bien, il n'enquête pas. Quant à la pauvre Tribune, ben Bernard Arnault l'a laissé tomber comme une vieille chaussette, elle en est morte. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'un site internet avec quelques journalistes qui font 3 ou 4 papiers par jour et qui, donc, évidemment, n'ont pas les moyens d'aller à Bruxelles pour enquêter sur les holdings de M. Arnault. Donc, on parle